Agir avec les pauvres contre la misère, donc un ouvrage de Bertrand Verfailly paru dans deux éditions, on va dire, en conjointement avec les éditions de l'Atelier et les éditions du Carmon. Bertrand Verfailly, bonjour.
Bonjour.
Donc cet ouvrage qui entre dans le cadre d'une collection Pouvoir d'agir, quel est le contexte de sa réalisation ?
Eh bien, en fait, on peut dire qu'il se situe au croisement d'une pratique professionnelle de journaliste qui a toujours été ouverte, si j'ose dire, branchée sur l'activité associative. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé dans ma carrière de, à la fois, avoir une activité presse, mais aussi de transférer un savoir-faire auprès d'associations, ce qui m'a fait rencontrer beaucoup d'associations dans le domaine de la citoyenneté, du développement durable et dans celui, je dirais, de l'action sociale au sens militant du terme. Donc je connaissais évidemment ATD Quart-Monde et j'avais déjà mené quelques projets avec ce mouvement. En l'occurrence, c'est quand même ATD Quart-Monde qui est venu me proposer cette recension d'initiatives dans lesquelles parfois ils portent le flambeau, si j'ose dire, ils sont porteurs de ces initiatives et dans lesquelles parfois d'autres mouvements sont à l'action. Avec ce critère toujours d'aller rechercher des actions dont les personnes pauvres sont partie prenante, un peu partout en France, et d'en voir, allez, on va dire qu'on avait une petite facette positive, d'en voir tous les possibles, même si parfois on en voit aussi des limites.
Donc la pauvreté et la misère ont toujours existé, même en France, elle devient plus visible.
Oui, je crois que c'est une des notions, alors je ne sais pas s'il faut s'en alarmer ou s'en réjouir, sans doute ni l'un ni l'autre, mais c'est sans doute une des notions caractéristiques de l'époque. La pauvreté est visible et en tant que telle, je dirais, elle fait peur. C'est-à-dire qu'une partie de la mauvaise réputation, de la stigmatisation dont sont victimes les personnes pauvres, c'est précisément cet effet miroir. On a peur, en quelque sorte, en voyant des personnes pauvres, de connaître leur sort, de tomber aussi bas, et suprême peur, quoi, je crois, qui traverse le corps social français, se retrouver à la rue. Hein, et c'est donc effectivement cette visibilité de la pauvreté qui est aujourd'hui, j'allais dire, globalement, collectivement, très mal vécue. Et si ça peut pousser certains à l'action pour la combattre, tant mieux.
Alors justement, est-ce que la visibilité de la difficulté des gens, ça peut peser aussi sur les décisions politiques, les orientations, pourquoi pas ?
J'allais dire, si je prends l'exemple des bidonvilles, dont quelques-uns fleurissent encore aujourd'hui dans notre métropole et dans notre région, qu'il faut du temps pour cela. C'est-à-dire que pendant longtemps, les décideurs préfèrent les solutions qui consistent à fermer les yeux, à faire comme si ça n'existait pas, voire à donner un petit coup de pied pour que le problème se déplace sur un autre territoire, avant de considérer qu'il est un vrai problème et qu'il faut le regarder en face et le traiter. Donc effectivement, la visibilité peut pousser certains élus à agir, mais il faut du temps.
Donc Bertrand Verfailly, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas sociologue. C'est quoi, quand on écrit un ouvrage tel que « Agir avec les pauvres contre la misère », l'angle d'un journaliste et pas d'un sociologue ?
C'est difficile à dire, parce que je ne connais pas exactement les méthodes de travail des sociologues, donc je ne ferai pas de comparaison. Ce que je peux dire, moi, c'est que j'ai fait un maximum de rencontres et que j'essaie de les restituer de manière journalistique, c'est-à-dire pas de manière absolument brute, avec l'intermédiation du média, hein, du journaliste, qui consiste à choisir, à hiérarchiser, à classer les données pour faire sens, et en tout cas, au moins, pour être compris du lecteur, hein, pour franchir cette barrière de l'écrit au lecteur. C'est une démarche, j'allais dire, relativement humble dans ma conception. J'ai une conception du métier de journaliste qui n'est pas, à proprement parler, celle d'un éditorialiste, d'un journaliste qui délivre son opinion à tous les carrefours, mais plutôt d'un journaliste qui se fait passeur, hein, entre une réalité et un public destinataire. Là, ça vise le grand public. Pour autant, je pense que la réalité des personnes pauvres et surtout la réalité des actions qu'ils mènent pour sortir de cette pauvreté ou de cette misère, ou tout au moins pour alléger le fardeau, tout au moins pour s'émanciper, n'est pas assez connue du grand public. Donc je me fais passeur d'initiatives à travers le moyen du récit. Hein, je vais voir, je questionne et je raconte ce que j'ai vu. C'est un peu plus simple que ça. Alors, c'est simple à dire, c'est pas toujours simple à faire, mais c'est ça le principe.
Donc passeur d'initiatives, passeur de mots aussi, de mots de personnes dont parfois vous avez modifié les prénoms.
Oui, alors ça c'est à la demande de certains intervenants qui connaissaient des situations dont provisoirement ils n'étaient pas contents. Hein, voilà, pour parler simple et pour être plus clair, bon, c'est des personnes qui étaient sous le régime de la détention avec des libertés et ils ne souhaitaient pas être éventuellement reconnus puisqu'on situait le cadre de l'association dans laquelle ils étaient en insertion. Voilà, des choses comme ça. Et puis des gens qui, effectivement, ont cette petite prévention quand on leur dit « je vais vous citer ». Oui, d'accord, mais pas avec mon prénom. Bon, voilà. C'est pas le phénomène le plus courant dans le bouquin. La plupart des gens avancent et agissent à visage tout à fait découvert, avec une grande fierté d'être partie prenante de la solution à leurs problèmes.
Donc effectivement, pour des gens qui vivent dans la région, dans la misère, mais aussi en réaction à cette misère, pour trouver des solutions pour eux et pour les autres, voire même pour les autres, et finalement trouver des solutions qu'ils arrivent à intégrer aussi à leurs propres problématiques. Il y a aussi tous ces flux migratoires qui engendrent de nouvelles misères, de nouvelles difficultés, et dont vous témoignez également.
Oui, je pense que là aussi, alors je crois que ça fait vraiment partie de la situation contemporaine du pays. L'immigration, il y en a toujours eu. Cette arrivée de migrants dont on a beaucoup de difficultés à comprendre, parfois, les motivations, en tout cas, par exemple, cette grande envie d'aller en Angleterre, est un phénomène de l'époque qu'on ne pouvait pas, à mon avis, ne pas traiter dans un bouquin qui parle d'agir avec les pauvres. Parce que je pense que, en termes de pauvreté, fut-elle temporaire ? Puisqu'elle est souvent liée à leur migration, parce que ce sont des gens parfois diplômés, donc qui n'ont pas de pauvreté culturelle. Ce sont éventuellement des gens qui ont un peu d'argent, qui en avaient en tout cas avant de partir. Donc ce n'est pas forcément de la pauvreté matérielle, mais ils vivent à travers cette migration et le fait de buter comme ça contre des frontières, des situations extrêmement éprouvantes, de misère morale, je crois, très très difficile, voire de mise en danger de leur vie, hein, hommes et femmes et parfois enfants. Alors, la question qui se pose, puisque l'angle était de voir comment les intéressés pouvaient prendre part à la solution de leurs problèmes, comment les mouvements qui s'efforcent de travailler avec les migrants agissent justement pour éviter d'être totalement dans l'assistanat, totalement dans la prise en charge, ou totalement à côté du problème, puisque, je le disais, il est parfois difficile à cerner. Et donc, il y a un chapitre qui est consacré au mouvement Terre d'errance qui agit à Nord-en-Fonte. Alors, c'est sur un plus petit campement qu'à Calais, ou à Grande-Synthe. Il n'empêche qu'ils se sont, au fil de presque 10 ans, d'action auprès des migrants qui résidaient provisoirement sur leur sol, forger une méthode, un comportement. Il y a des choses qu'ils refusent de faire. Ils évitent le caritatif. Ils ne font pas ce que les migrants pourraient faire eux-mêmes. Ils tentent chaque fois que possible de les associer. C'est évidemment difficile avec des gens qui, comme je dis dans le bouquin, ne cherchent qu'à partir du lieu en question. Hein. Et finalement, il y a des bénévoles qui disent, finalement, ce campement-là de Nord-en-Fonte, il est autant à nous qu'à vous, disent-ils aux migrants, puisque nous, on y est depuis 10 ans, presque tous les jours. Vous allez peut-être y passer 3 mois maximum et peut-être 3 jours, quoi, hein, si vous avez de la chance. Donc c'est difficile, mais à l'évidence, l'action auprès des migrants et les migrants eux-mêmes devaient se trouver dans ce livre.
Donc on a bien compris que la situation est de plus en plus lourde, que les gens qui interviennent comme bénévoles sont certainement de plus en plus sollicités, qu'ils ont beaucoup à œuvrer. Et puis il y a un certain nombre d'organisations qu'on appelle les ONG, certains peut-être qui ont plus leurs pauvres que d'autres.
Oui, si derrière votre expression, vous définissez un mode d'intervention, je pense que oui, il faut le reconnaître. Il y a des histoires, hein, des histoires de mouvements, par exemple, qui sont créés juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte où, bon, voilà, il y avait beaucoup de gens dans le dénuement matériel et qui ont, à l'appui d'œuvres comme l'Église catholique ou d'autres mouvements, enclenché une forme d'action qui était très caritative. Hein. Je secours matériellement, avec des vivres, un petit nombre de pauvres, voilà, qu'éventuellement je soumets à du prosélytisme pour rejoindre mes idées. Hein. Voilà, pour faire simple, effectivement, on peut dire que certains mouvements, à l'origine, ont eu leurs pauvres et peu de soucis de les émanciper. Le souci de les secourir, absolument. Le souci de les émanciper, beaucoup moins. Ça bouge quand même.
Alors, je vois beaucoup d'associations caritatives, enfin ONG, on mettra le mot qu'on veut dessus, qui ont des sponsors qui, pour la plupart, sont des grosses sociétés cotées en bourse, qui vivent aussi d'une certaine misère qu'ils contribuent à mettre en place.
Oui, contradiction qui traverse sans doute d'autres organisations, mais qui traverse certaines de ces organisations. Disons qu'un mouvement comme ATD, qui précisément entretient une grande défiance vis-à-vis de l'argent et du secours monétaire, se tient à peu près à l'écart de ce genre de pratiques. D'autres mouvements, sans doute, n'échappent pas tout à fait à ce genre de contradiction. Il faut bien dire aussi que le flot de misère ou de pauvreté qui leur vient est toujours plus grand, que les moyens alloués par l'État ou les institutions en période de disette de fonds publics ne cessent de baisser. Donc il y a des recherches, parfois effrénées, parfois maladroites, d'autres concours auprès de fondations. C'est pas, on va pas sonner directement à la porte d'un grand distributeur alimentaire ou bien d'une multinationale, mais ça se passe souvent par le biais de fondations et ça peut amener à des contradictions, certainement. Oui.
Et puis aussi une image de la société via son organisme de redistribution, on va dire, hein, qu'il met aussi en valeur d'une certaine manière.
Bien sûr, bien sûr. Rares sont les donateurs qui sont totalement anonymes dans ce genre d'exercice.
Donc voilà, on a bien compris que ATD Quart-Monde, c'était une association qui parle du quart-monde, pas du tiers-monde, hein, parce que parfois dans l'image du public, on mélange un peu les choses.
Le quart-monde, une notion qui a été créée par le fondateur du mouvement, hein, qui est encore aujourd'hui extrêmement considéré par les membres du mouvement. Sa parole fait presque évangile dans le mouvement. Et donc c'est Joseph Wrzinski, qui est un père, quelques années après l'appel de l'abbé Pierre, a créé ATD Quart-Monde, hein, puisque c'était en 1957. Et donc il a forgé ce concept d'un quart-monde qui, c'est même au-delà du tiers-état, hein, de naguère. C'est donc effectivement un monde de personnes vivant la misère et privés d'une représentation collective, privés d'une parole individuelle et collective qu'il a appelé le quart-monde et qu'il a invité, incité à se faire entendre, voire à se rebiffer.
Donc Bertrand Verfailly, ce quart-monde au fil des années, on va dire après la guerre 39-45, puisque certains mouvements ont été initiés un peu à ce moment-là, puis il y a eu d'autres grands mouvements, secours populaires aussi dont on pourrait parler ou d'autres. Hein. Est-ce que ce quart-monde a tendance à augmenter en termes de nombre et aussi en termes de difficultés sociales?
Et on dit qu'il y a 7 millions de pauvres en France, donc ça recouvre des gens qui sont très très démunis et des gens qu'ils sont un peu moins, certainement. On ne peut pas dire en tout cas que le nombre de pauvres dans notre société est connu une diminution substantielle, comme beaucoup l'espéraient, hein, dans les 30 Glorieuses, comme certaines idéologies aussi le laissaient espérer à la fin dans le courant en tout cas du XXe siècle. Il y a un triomphe du capitalisme, on va dire, même si tout toutes les causes de la misère ne résident pas dans le système économique et donc dans le système économique capitaliste qu'on vit. Il y a quand même un triomphe du capitalisme qui laisse sur le carreau quand même énormément de gens. Il y a une perte de puissance, de force de ce qu'on appelait l'État-providence en France, qui fait que bon, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire, voilà, assez dépourvus de qualifications, et donc voilà, qui peuvent éventuellement retomber dans des difficultés économiques et sociales. Non, je veux pas dire que le phénomène ne cesse de grandir comme une vague qui grandirait, mais il ne subit pas de diminution significative. On voit apparaître des nouvelles populations pauvres, les jeunes notamment, hein, et notamment par les difficultés, les défauts de qualification et les difficultés d'insertion énormes auxquelles ils sont confrontés.
Alors, effectivement, on voit la pauvreté qui ne régresse pas. Aussi, bon, là, on peut parler de la France, bien sûr, mais aussi, on va dire que l'exploitation par le système capitaliste, que vous expliquiez un peu tout à l'heure, cette exploitation aussi va vers l'étranger, donc exploiter d'autres peuples qui travaillent à des conditions encore plus difficiles que certains travailleurs qui sont déjà sous-payés dans certaines unités de production. Et donc qui aussi contribue au développement de la misère, à la fois en France, bien sûr, mais aussi avec les personnes qui travaillent parfois pour 1 euro à l'étranger. On peut considérer ça comme une certaine forme d'esclavage.
Oui, je répète, le triomphe du capitalisme est planétaire, hein, et aujourd'hui, et donc effectivement, dans des pays, je ne sais pas si votre question consiste à dire qu'il y a plus pauvres que les pauvres français, je ne pense pas que ce soit ça, mais d'une certaine manière, c'est vrai que le capitalisme, là où aucun appareil de loi ou aucun appareil de réglementation, aucun droit du travail n'est en vigueur, fait encore plus de ravages que dans les pays où il reste quelques éléments de droit du travail quand même. Ça, c'est absolument certain. Il n'y a pas de frein à l'exploitation de l'homme par l'homme dans un certain nombre de pays. Il en reste quelques-uns chez nous. Voilà.
Alors, Julia nous a rejoint. Elle est jeune. Elle a donc peut-être une vision par rapport à cette situation qu'elle a rencontrée, peut-être abordée aussi dans sa vie quotidienne. Par rapport à ses propos, Julia, une remarque, une intervention?
Ben moi, j'aimerais bien savoir à partir de quel moment, d'après vous, on pourrait dire que quelqu'un est pauvre ou alors simplement en difficulté financière. Où elle est vraiment la limite, le basculement, en fait?
Il y a des seuils de pauvreté, hein, qui sont calculés en fonction du nombre d'enfants. J'ai pas les chiffres en tête et j'ai trop peur de dire une bêtise, mais c'est quelques milliers d'euros par mois pour une famille, par exemple, de 4 enfants. Hein, 2 adultes et 4 enfants. Premier élément de caractérisation d'une famille pauvre ou d'une personne pauvre, le revenu financier. Mais tout ce qui est décrit de manière, je l'espère, plutôt positive dans le livre, concerne bien d'autres formes de pauvreté, hein. Notamment la pauvreté qui est liée à une éducation difficile ou à un contexte affectif familial difficile. Hein, on parle beaucoup à TD, on s'insurge beaucoup d'ailleurs contre les placements d'enfants et les dégâts qu'ils font. Ensuite, des défauts de qualification, donc une pauvreté, je dirais, culturelle. Au-delà de l'argent, il y a les conditions de vie dans le logement aussi. Il n'y a pas que le revenu. On peut avoir un revenu considéré comme juste au-dessus du seuil de pauvreté et être maintenu par le fait d'une histoire, dans un gourbi, dans un taudis, dans un logement dangereux. Et puis, une dimension que les ONG prennent de plus en plus en compte, c'est la pauvreté morale. Qui dit pauvre, dit très souvent isolement. Et évidemment, c'est une souffrance dans notre société. Donc la pauvreté, c'est vraiment un ensemble de choses qui ne se réduit pas au portefeuille, hein, et à l'argent disponible. Il y a des mouvements cumulatifs où il y a des interactions entre tous ces facteurs qui font que même si un des facteurs tient, se révèle satisfaisant, par d'autres côtés, la personne peut être encore maintenue dans un état, je dirais, de pauvreté, par exemple morale, hein, et d'isolement. D'où la difficulté quand on dit qu'on va s'attaquer à la misère avec les personnes concernées. Justement, il faut s'attaquer à une multitude de facteurs. C'est, je crois, une des clés du... Parce qu'on me demande parfois pourquoi il reste de la misère. Ben, il reste de la misère parce que s'il s'agissait simplement de remplir un compte en banque ou un frigo ou de rénover une maison, les pauvres eux-mêmes, je crois, s'y attelleraient et y arriveraient. Mais être pauvre, c'est s'exposer et vouloir en sortir, c'est s'attaquer à de multiples choses en même temps, dont on ne sait pas par quel bout les prendre souvent, qui peuvent faire des effets de spirale absolument redoutables. Hein, absolument redoutables. Moi, à chaque fois, je vois la différence entre moi, qui peut être considéré comme quelqu'un vivant dans la classe moyenne, propriétaire de mon logement, et quelqu'un qui, même sans être dans l'absolue pauvreté, n'est que locataire d'un logement dont les propriétaires ont plus ou moins des comportements déplacés à son égard, qui peut avoir des problèmes de santé, dimension que j'avais oubliée aussi, et comment tout cela peut être cumulatif, parce que le jour où on est convoqué à Pôle emploi, on a ce problème de santé, si on a ce problème de santé, c'est pas par hasard, on se trouve avec un problème de santé, radié de Pôle emploi en plus, enfin, oui, voilà, je suis vraiment frappé des effets cumulatifs qui vous enfoncent la tête sous l'eau et qui font que agir vraiment contre la misère quand on est pauvre, c'est pas rien et c'est méritoire.
Donc là, on parle de cas concrets de pauvreté. Il y a aussi les pauvres qui s'ignorent, c'est-à-dire les gens qui s'endettent outre mesure.
Oui, ça aussi, c'est une caractéristique de l'action auprès des pauvres. C'est effectivement une difficulté à inscrire les choses dans la durée et dans l'organisation, quoi. Voilà. C'est bon. Voilà. Et donc, il y a des phénomènes d'endettement qui peuvent paraître complètement incompréhensibles, mais qui s'expliquent, par les privations. Quand vous êtes privé 6 mois de l'élémentaire, que vous retrouvez un petit peu de marge de manœuvre financière, vous avez vite fait de la croquer. Et voilà.
Alors, Julien, vous êtes étudiant. Je vois beaucoup d'étudiants qui font des études qui leur sont parfois très coûteuses, qui s'endettent presque au-delà du raisonnable, on va dire. Est-ce que la projection dans l'avenir pour ces étudiants ne risque pas d'être mal perçue et ne risque-t-elle pas de les amener à une forme de pauvreté à long terme ?
J'espère pas pour eux, mais il y a des aides. Mais oui, c'est vrai que les études, c'est très cher et c'est parfois compliqué parce que souvent, ce qu'on veut faire, c'est pas souvent possible avec nos moyens. Et oui, je pense qu'il y en a certains qui vont être en difficulté. Mais après, je pense qu'il faut pas essayer de se limiter qu'aux entraves au niveau de l'argent. Il faut essayer de chercher ailleurs et je pense qu'il y aura toujours moyen de trouver quelque chose qui nous conviendra et qui sera possible pour nos moyens.
Quand on prend un prêt, c'est pour le rembourser, enfin, je pense, hein, c'est l'idée générale. Est-ce que justement pour ces étudiants, les perspectives, notamment de l'emploi, ne pèsent pas sur aussi cette précarité peut-être à long terme? Est-ce que vous pensez être armé pour affronter cela en arrivant sur le marché du travail?
Je pense qu'on a tous un peu peur de ça parce qu'on parle beaucoup dans les infos, etc., de la difficulté du marché de l'emploi et que avec toutes les nouvelles lois, etc., on va avoir du mal pour nous, les jeunes, qui sont le futur de tout ce marché-là. Mais bon, on a réussi jusque-là, donc je pense qu'on y arrivera au bout d'un moment quand même. Il y aura toujours quelque chose. On va pas nous laisser comme ça dans notre misère, on va dire, et... Ben on fera face, on essayera, quoi.
Donc Bertrand Verfaillé, on a bien entendu la différence entre une pauvreté temporaire ou temporelle, voire même à long terme, et une misère, notamment intellectuelle, psychologique, que visiblement Julien n'a pas, et on espère que ça va durer.
Oui, c'est très positive.
Merci, on va rappeler donc... Bertrand Verfaillé, vous êtes l'auteur de « Agir avec les pauvres contre la misère » qui vient de sortir dans la collection « Pouvoir d'agir » aux éditions Quart Monde et de l'atelier. Très bonne journée.
Merci.